Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Je voudrais maintenant parler du travail aujourd'hui. Ce travail dont on parle tellement partout, souvent pour le mépriser. Le travail n'est-il vraiment qu'une triste nécessité, comme le proclament sans relâche les syndicats et tout un ensemble médiatique? Dans un article paru en juillet 2007 dans Valeurs Actuelles, Bruno de Cessol a écrit « Si nous travaillons, c'est dans le but d'obtenir des loisirs. » Il avance même, sans citer ses sources avec précaution, « Les Grecs tenaient le travail pour une activité nécessaire mais ignoble, sic. » Et la scolastique médiévale, opposant les arts libéraux aux arts serviles, a maintenu la tradition antique. Ce serait la réforme qui aurait valorisé le travail. Je pense personnellement que Calvin pensait surtout au profit. Cessol fait toutefois une distinction entre le loisir tel qu'on l'entend de nos jours, distraction futile, divertissement au sens pascalien du terme, et le divin loisir, célébration de la divinité, aussi productif et sans doute davantage que toute activité salariée. Ce divin loisir serait la contemplation. Sans vouloir donner une leçon à une personne certainement plus qualifiée que moi, il semble à la fin de cet article qu'on ne sache plus très bien de quoi on parle. D'ailleurs, la présentation est légèrement différente. Il note « Contre le travail totalitaire, réhabiliter le loisir, condition de la plus noble activité de l'homme, la contemplation. » Plus explicite en un sens est un texte de La Bruyère. « Il faut, dit La Bruyère, il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois et consentir ainsi à demeurer chez soi, à ne rien faire. Il ne manque à l'oisiveté du sage, qu'un meilleur nom et que méditer, parler, lire et être tranquille s'appela travailler. » Regardons quand même du côté de la Bible. Dans son premier chapitre, on peut lire que Dieu dit à l'homme « Fructifiez, multipliez-vous, remplissez la terre et la soumettez. » Et dans le deuxième chapitre, « Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Ce n'est qu'au chapitre 3, après la faute originelle, que Dieu dit « Maudit soit le sol à cause de toi, ce n'est qu'au prix d'un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Le côté pénible du travail provient donc de la faute originelle. Le travail lui-même est un rôle donné par Dieu qui a mis, selon une formule peut-être un petit peu osée, la création qui a donné à l'homme la création achevée. La vocation de l'homme, c'est donc le travail. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles pourraient paraître a priori. On raconte qu'un sage vit un jour trois hommes en train de travailler. Il leur demanda ce qu'ils faisaient. Le premier dit « Je taille une pierre ». Le second « Je gagne ma vie ». Et le troisième « Je construis une cathédrale ». Il y a donc au moins trois dimensions dans le travail. La plus évidente est le côté astreignant et fatigant. Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver, a chanté un artiste sympathique qui avait certainement beaucoup travaillé son numéro. La deuxième dimension du travail est déjà plus élevée. Ce n'est plus le fouet qui fait agir, mais le devoir envers la famille. La troisième dimension ouvre une porte lumineuse. Travailler, c'est réaliser une œuvre. Dieu nous a donné des qualités, des talents. Il nous appartient de les faire fructifier pour le bien de tous. Ces talents sont variés et complémentaires. L'égalitarisme actuel est parfaitement absurde. Prenons l'exemple d'une maison. Le maçon, le couvreur, le plombier, l'électricien sont indispensables avec leur savoir et leur habileté. Mais l'architecte l'est tout autant pour les coordonner et leur dire où ils doivent placer le mur, installer la baignoire, la lumière, etc. Il y a plus de 2000 ans, qu'un certain Ménénius Agrippa a rappelé la complémentarité des rôles des membres et de l'estomac. Le travail est le fondement de la dignité de l'homme. Même les tâches les plus humbles doivent être respectées. Que vaudrait le pianiste sans les déménageurs qui amènent l'instrument dans la salle du concert? Cela dit, il faut reconnaître que certains travaux, parfois fort pénibles, sont bien peu considérés et qu'il arrive aux donneurs d'ordre d'outrepasser leurs droits. Dans un monde où la quasi-totalité des relations professionnelles se traduit en termes économiques, le travail finit par n'être considéré que sous son aspect financier. Une dérive particulièrement choquante est la pratique qui se généralise du bas prix. à la limite de l'honnêteté, comme celle qui consiste à vendre plus de places d'avion, de théâtre ou de chambre d'hôtel qu'il n'y en a de disponibles. En anglais, on appelle ça du surbooking. Les prix dépendent de la disponibilité d'un moment et non du service rendu. Dès lors, s'il n'y a plus de juste prix, il n'y a plus de juste salaire et on vire à la catastrophe. Le travail, donc l'homme qui le produit, devient un produit. L'homme qui le fournit devient un produit que l'on peut dévaluer si on y trouve son intérêt et jeter dès qu'il semble inutile ou simplement dépassé. C'est le triomphe du libéralisme dans ce qu'il a de plus odieux. On retrouve partout cet état d'esprit. L'amour est réduit au plaisir sexuel, le vin est réduit à l'ivresse, la force et le savoir à la puissance, l'entreprise à ses bénéfices. Il ne s'agit plus, comme le disait le fondateur des usines Michelin, de fournir le meilleur pneu au meilleur prix, mais on doit gagner le plus d'argent possible par tous les moyens autorisés par des lois que l'on tente de gauchir grâce à de puissants lobbies. On comprend que le marxisme, dont le rejet de toute spiritualité est l'erreur fondamentale, est cherché à tirer profit de cette hideur pour tenter de détruire cette société, en la remplaçant d'ailleurs par une autre tout aussi inadmissible. Pour faire la synthèse entre le marxisme qui ne voit que le côté contraignant, voire avilissant du travail, et qui cherche en conséquence à le réduire, voire à le supprimer, semaine de 35 heures, retraite à 55 ans, quand c'est pas 50 ans, et le libéralisme qui cherche à le pressurer pour en tirer profit, il faut remonter jusqu'à la nature de l'homme. Certes, le travail le fatigue, mais répétons-le, il s'agit là de la conséquence du péché. Mais il donne aussi à l'homme sa dignité. Saint Paul l'écrit dans Sans embâge aux Thessaloniciens. Il faudrait citer tout le chapitre 3 de sa deuxième épître. Nous vous enjoignons de vous tenir à distance tout frère vivant dans la paresse. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il n'a pas non plus le droit de manger. Un peu plus loin, il y a des gens parmi vous qui s'occupent de futilité. De son côté, saint Ignace de Loyola demande dans sa célèbre prière de travailler sans chercher de repos. Il semble que nous soyons au cœur de la question. Il ne faut pas passer son temps à s'occuper de futilité. Il convient de cultiver ses talents pour le bien commun. C'est ce que Jean-Paul II a si bien exprimé. Il y a dans son travail tout l'amour que l'homme porte à sa famille. Il ne précise pas si le père maniait l'ordinateur ou la pelle mécanique. Et que dire du travail de la mère de famille si méprisée de nos jours? Mais il faut ajouter que le travail n'est pas un absolu. Dieu s'est reposé le septième jour. Si l'Église nous enjoint d'en faire autant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une bagatelle. La contemplation reste le but final de la vie. C'est ce que l'on appelle le repos éternel. Il ne faut pas se laisser envahir par les préoccupations matérielles au-delà d'une mesure qui, si elle est laissée à l'appréciation de chacun, n'en existe pas moins. Il faut savoir garder du temps pour la famille, ce qui est un témoignage d'affection, et pour sa détente. Comme l'a dit saint Paul, il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Le Christ, même les mots croisés. Le Christ n'a dit aux apôtres, mettez-vous un peu à côté et reposez-vous, détendez-vous, après leur première expérience d'apostolat, pardon, excusez-moi. Quant à l'âge de la retraite, cela dépend de bien des choses. Celui qui a fait un dur labeur a parfaitement le droit de se reposer, mais on ne peut s'empêcher de penser à des artistes comme le Titien, Michel-Ange, ou à des savants comme Passeur ou Chevreul, pour qui le terme de retraite n'avait aucune signification. En conclusion, je pense que l'on peut méditer sur les deux plus grands saints du calendrier. Saint Jean-Baptiste, le seul dont on fête la naissance, et saint Joseph, patron de l'Église, le seul qui ait une préface propre dans l'ancien missel. Le premier était entièrement adonné à la prière et à la pénitence. Le second, à l'humble travail quotidien. Saint Joseph n'a fait aucune action d'éclat, ne s'est adonné à aucun ascétisme particulier. Il s'est contenté de remplir fidèlement son rôle de père de famille. Finalement, on en revient à la devise de saint Benoît, ora et labora, sans oublier qu'un temps de récréation est prévu dans tous les monastères bénédictins. La prochaine fois, je tenterai à parler de la famille.